Salut à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je serai en toute intimité avec Maureen.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un Kickstarter qui tourne mal. Nous enchaînerons ensuite sur le nouveau trailer de The Forest. Au menu de l'actualité en général, Assassin's Creed à Paris. Paris libéré, n'est-ce pas? Paris libéré. C'est Gameblog qui va être content. Oui. Far Cry 4 dans l'Himalaya, la GDC où Obsidian a fait parler de lui ou pas. Project Morpheus dont nous vous parlions dans le dernier numéro du podcast, n'est-ce pas? Ouais. Qui est donc le dispositif de réalité virtuelle de Sony. Ensuite, le nouveau dev kit de l'Oculus Rift. De la GDC, toujours une baisse des prix drastique des moteurs, et vous allez voir, quand on dit drastique, c'est peu dire.
Ouais, c'est clair.
On parlera aussi de l'ancien boss de THQ qui nous cause de Patrice Désilet. Et enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit jeu qui est sorti, enfin une démo qui est sortie cette semaine, ça s'appelait Metal Gear Ground Zeroes. Alors, on ne va pas vous parler du jeu. Bon, parce que si vous voulez, moi j'ai un peu regardé le film parce que j'ai aucune intention s'en acheter, mais on s'est dit que ce serait pas mal de faire un débat sur la durée de vie. Ouais. Ce serait peut-être intéressant. Voilà, voilà, donc ce sera tout pour le sommaire de cette semaine, et nous allons donc commencer avec les Indies et un projet qui a mal tourné, Maureen, quoi qu'est-ce ?
Quoi qu'est-ce ? Alors, c'est un Kickstarter. Vous savez que très souvent, le tyran nous met en garde par rapport au sujet de Kickstarter, et on a notamment au sujet de ses risques. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un projet Kickstarter qui a été financé en juillet 2012, d'un jeu qui s'appelle Super Action Squad, par un développeur qui s'appelait Jay Pavlina, et qui avait récupéré $53,509 pour son projet. Et deux ans plus tard, donc aujourd'hui, en fait, on apprend que le développement du jeu est en pause, et le développeur le dit très simplement, en fait c'était une très mauvaise idée dès le départ. On a une très mauvaise idée de se lancer sur Kickstarter pour notre premier jeu, parce qu'en fait, si vous voulez, ces développeurs étaient amateurs. Lui avait développé un fan game, un jeu flash qui s'appelle Super Mario Bros. Crossover, et s'est dit, avec cette expérience-là, ça va suffire, je vais monter une petite équipe et je vais faire mon premier jeu grâce à Kickstarter. Donc il a récupéré $53,000 et il s'est rendu compte que finalement c'était pas si simple que ça de se lancer dans son premier jeu, quand bien même on aurait un financement potable.
Surtout quand il s'agit de bosser pour la première fois en équipe. Parce que de ce que j'ai compris, quand même, ouais, certes, il blâme un peu son incompétence, mais il blâme un peu beaucoup son équipe aussi, j'ai l'impression.
Il blâme le studio, donc lui y compris, évidemment, et donc il le dit, voilà, sans détour, en sachant ce que je sais maintenant, je n'aurais jamais lancé le Kickstarter pour un jeu qui était mon premier projet, en fait. Il dit que finalement, ça n'a pas vraiment de sens pour une équipe qui a peu ou pas d'expérience et qui n'ont jamais, en fait, travaillé ensemble, d'essayer de faire un gros jeu. Donc voilà, bon, finalement, les $53,500 ont été utilisés, et les backers sont bien embêtés en ce moment là, donc ils sont en train de calmer un petit peu la pression en disant oui, on va essayer de trouver des solutions très rapidement, mais ne vous attendez pas à des miracles, parce que forcément, hein, quand on a passé 2 ans à développer un jeu et les $53,000, bah voilà, on les a utilisés. Du coup, je sais pas trop comment ils vont s'en sortir, mais c'est encore une fois une preuve que Kickstarter, ça n'est pas tout rose, et qu'il peut y avoir des problèmes sur les petits comme les gros projets, comme on l'avait vu avec Broken Age, bien sûr.
Et surtout, ce n'est pas de la précommande.
Exactement.
Parce que ça, c'est un sujet qui m'agace à chaque fois qu'on parle de Kickstarter. Je veux bien qu'on me dise que ce ne sera pas du mécénat, à la limite, mais ça ne peut en aucun cas être qualifié de précommande, parce qu'une précommande, là, à l'heure actuelle, il serait remboursé.
Bien sûr.
Voilà. Là, t'es pas remboursé, tu es là dans le cul. Pour être clair. Donc, qu'on arrête, par pitié, de comparer Kickstarter avec de la précommande.
Voilà, donc faites attention, comme d'habitude.
Ce que je voulais ajouter à ce sujet, la démonstration de pourquoi les gens ne donnent pas des 1000 et des 100 à des gars qu'ils ne connaissent pas. Hein. Mm. Parce que moi, c'est un autre sujet qui m'agace sur les reproches qu'on fait avec Kickstarter. Ouais, vous donnez pas des millions à des inconnus. Ben, ouais. La preuve, vous regardez, voilà pourquoi. Parce que on calcule le risque, tout simplement. Alors, sauf si vraiment le projet a l'air tellement impressionnant que, voilà. Je veux dire, les mecs, ils ont jamais développé de jeu. Là, bon, ça va, c'est un petit budget, c'est 53 000 $. Donc finalement, je veux dire, à moins qu'il y ait eu des inconscients qui aient dépensé plus de 100 $ sur le projet, mais bon, à ce moment-là, il faut leur dire d'arrêter leur foutre des baves dans la gueule.
Ouais.
La perte est minime, quoi. Les gens ne sont pas idiots, justement. C'est pour ça qu'ils font confiance à des personnes connues pour leur donner des grosses sommes et que des personnes moins connues, ils leur donnent des moins grosses sommes. C'est normal. Tu fais tes preuves avant de gagner de l'argent, quoi.
C'est pas logique.
Par rapport à ce que la personne a dit sur le fait qu'il aurait dû peut-être s'attaquer à un projet moins ambitieux, j'ai envie de donner un exemple qui est très connu, Faster Than Light. Les mecs, pour leur premier jeu, ils ont fait un projet qui, certes, est absolument génial sur le plan du game design, mais quand tu regardes dans le détail, je veux dire, fondamentalement, Faster Than Light, c'est quoi ? C'est un vaisseau à modéliser, un background... et des vaisseaux en face à modéliser avec des tout petits sprites qui sont faits assez rapidement. C'est très très simple à faire en fait, Faster Than Light comme jeu. Donc voilà.
Puis l'équipe était réduite et se connaissait déjà aussi.
Voilà, exactement. C'est des mecs qui ont l'habitude de bosser ensemble. Et encore une fois, j'ai envie de dire un exemple qui fait que voilà aussi pourquoi je me méfie, tu sais, des équipes qui sont éparpillées à travers le monde. Ouais, alors lui il a Shanghai, lui il a Moscou, lui il est aux États-Unis. Tu fais oui, ok, d'accord. J'espère que vous connaissez bien quand même, hein, parce que voilà, pour travailler à distance comme ça, faut quand même bien se connaître, quoi. Enfin bref, encore une fois, j'ai envie de dire bravo, c'est une belle illustration de pourquoi il ne faut pas mettre beaucoup d'argent sur Kickstarter. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais ajouter une petite chose. Il y a peut-être un gros Kickstarter prochainement qui va bien se planter, mais je vous en dirai plus prochainement. Ce Kickstarter, c'est Planetary Annihilation.
Ouais.
Vous savez que je suis contributeur sur ce projet, n'est-ce pas ? On va dire que les nouvelles que j'ai eues récemment, moi, ça me a fait un peu beaucoup flipper. Hein.
Ouais.
Parce que notamment par rapport à l'état d'avancement du jeu et le fait que sur les forums, il y a certaines personnes qui repéraient le fait que le distributeur de la version physique, parce qu'il y en aura une, a annoncé une date de sortie dans pas longtemps là. Et quand on voit l'état du jeu, on se dit c'est pas possible, le jeu il ne peut pas sortir dans cet état là. Donc voilà, peut-être un Kickstarter croustillant qui va réjouir tous ceux qui sont contre ce modèle de financement. Et j'avais dit que ça allait se passer un jour, hein, mais j'espère que ce sera pas celui-là en tout cas, parce que moi ça me ferait chier, tu vois, parce que pour le coup c'est un projet que j'attendais beaucoup.
Je m'étonne.
Bon, on passe à la suite, et maintenant, on cause de The Forest. Alors, The Forest, Mandrin, rappelle-moi le nom du studio.
Alors c'est End Night Games qui en fait est c'est assez marrant parce qu'on peut pas trouver le nom très facilement du studio. Sur la page Steam par exemple du jeu, tu sais que c'est Ben et Michael qui font le jeu et en fait j'ai dû galérer pour trouver que c'était End Night Games le nom du studio. Bref, pour la petite anecdote.
Alors, pour résumer, The Forest, c'est un mélange de sandbox, de survie,
ouais,
et d'horreur.
Oui.
Vous incarnez un mec dont l'avion s'est crashé, qui débarque dans une forêt, bon, qui au premier abord a l'air comme toutes les forêts, sauf que la forêt en question est peuplée de créatures humanoïdes qui se déplacent à quatre pattes, qui on va dire sont super méga glauques et qui ont l'air un peu cannibales sur les bords en fait.
Et c'est surtout que il y en a certaines qui ressemblent à des poulpes en fait. Et je me dis mon Dieu, genre il y avait des tentacules sur la tête et tout. Je fais ah, c'est très dégueulasse. C'est ça.
Pourquoi on attend ce jeu ici à Game Info ? En tout cas moi j'attends. Moi je ne sais pas pour moi Owen, je ne m'exprimerai pas à sa place parce que c'est super méga flippant sa race quoi. Si vous voulez je commence à me lasser de tous ces roguelike, ces jeux sandbox etc qui n'ont pas d'univers travaillé en fait. Ils n'ont pas une histoire. Enfin bref, pour le coup il y a l'air d'y avoir une vraie direction en fait. Que ce soit en termes artistiques, de finition des environnements aussi. En tout cas, c'est super beau, c'est super immersif, le trailer qu'on a vu. Et toute la partie sandbox a l'air super shadée, quoi. Enfin, même d'une manière générale, tout ce qu'on voit, c'est super fignolé, et ça change pas mal de tous ces projets en early access sur lesquels on est en ce moment, quoi, aussi, faut le dire.
Ouais, non, c'est clair. Moi, ce qui... Bon, déjà, il y a un truc qui... sur lequel on est d'accord, c'est l'aspect sandbox qui est méga travaillé. Enfin, ça, on a vu quelques secondes hein, de ces aspects-là, voilà, mettre en place une barricade. Et déjà rien que ça, tu te dis ah ouais, ça a l'air simple et ça a l'air, on a l'air de pouvoir faire des choses assez intéressantes et facilement.
Et, ça m'a rappelé Seven Days to Die d'ailleurs.
Oui. C'est vrai. Un petit peu de Rust aussi. Enfin, c'est ils fonctionnent à peu près tous de la même manière de toute manière.
Ouais,
mais, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que à cet aspect sandbox s'ajoute l'aspect gestion de la physique. Quand on a vu les monstres défoncer la barricade que le mec venait juste de poser, je me suis dit ah oui, je veux ce jeu parce que. C'est trop souvent en fait on a affaire à des jeux sandbox en cubique et des blocs en fait que les monstres mettent un peu de temps à défoncer et là tu vois le truc qui déboîte ta barricade en deux temps trois mouvements et tu te dis voilà c'est ça que je veux dans un jeu d'horreur en fait c'est ne pas te sentir à l'abri et voilà faire tout ce qui est en ton pouvoir pour échapper à cette menace là et il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est au tout début de la vidéo, on voit le fils de notre personnage et je me demande s'il va pas y avoir quelque chose à faire avec ça en termes d'immersion et en termes d'histoire et d'intrigue. Ça pourrait être assez intéressant qu'il y ait ce thème qui revienne en fait dans le jeu. Je suis assez intéressé par le jeu, même si, comme d'habitude, vous me connaissez, les jeux flippants, c'est pas forcément le genre de jeu auquel je peux jouer très longtemps.
Et moi qui pensais que tu allais prendre un Oculus Rift rien que pour jouer à ce jeu, franchement, maintenant tu me déçois. Ce qui me plaît beaucoup par rapport à un Seven Days to Die, à un Rust, ce genre de jeu, c'est que là, il y a une vraie identité, quoi. Moi, j'ai un problème vraiment avec Seven Days to Die et pourquoi je l'ai pas acheté. C'est parce que je trouve que visuellement, c'est assez générique, quoi.
C'est vrai. C'est pas très très beau, faut le dire.
Bah, mais tu vois, par rapport à un Minecraft, par exemple, qui est pas très très beau sur plan purement technique, je trouve que Minecraft a quand même une identité, tu vois.
Ouais.
Ou même un Starbound, hein, pareil, Starbound, sur lequel Mordane et moi on passe pas mal de temps. Allez voir nos vidéos, auto-promo, voilà. Donc ça fait plaisir. En plus, il y a de superbes effets de lumière. T'as vraiment l'impression d'être dans une forêt. Puis bon, cette ambiance, quoi, putain. Je veux dire, regardez ce trailer. Il y a une espèce de scène d'horreur au début, où, parce que vous êtes pas le seul passager de l'avion, évidemment, hein, et vous vous demandez mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette passager.
Et vous êtes pas le seul habitant de l'île non plus. Et moi c'est marrant, j'ai l'impression en fait de voir ce que je voulais jouer dans le reboot de Tomb Raider. C'est-à-dire que tu t'arrives sur une île mystérieuse et pour le coup c'est survie, c'est pas juste du de l'action. Et c'est ça qui m'avait déçu dans Tomb Raider à l'époque et j'ai l'impression que c'est ce jeu-là que je voulais voir en fait.
On rappelle donc qu'il s'agit d'un jeu à la première personne.
Oui.
Et aussi, nous rappelons que c'est prévu donc pour le 29 mai en Early Access. Donc, rendez-vous est pris.
Oh.
Moi, en tout cas, il y a de bonnes chances que je tombe dans le panneau, n'est-ce pas? Donc, nous allons maintenant passer à la suite. Et nous allons parler du nouveau Assassin's Creed.
Ouais.
Alors, Mordren, tu es prêt pour la révolution?
Ouais, ça fait longtemps qu'on est prêt pour la révolution.
Ah ouais, ça fait tellement d'années qu'on nous l'annonce que là, on l'attendait plus, hein.
Ouais. Alors, Assassin's Creed Unity. D'ailleurs, j'ai l'impression que le numéro 5 a été viré. Fait partie des deux jeux Assassin's Creed qui vont sortir en fin d'année. Celui-là, c'est la version next-gen, en fait. L'autre, visiblement, c'est la version Xbox 360 PS3 qui, a priori, serait un jeu différent. Mais là, on parle de la next-gen et du jeu PC. Enfin, on a eu l'officialisation que ce jeu se déroulerait donc à Paris durant la Révolution française avec un personnage qui s'appelle Arnaud, avec un O. Bon, on n'en a pas vu grand chose, hein, mis à part une vidéo un peu bullshit, histoire de nous dire, hey, c'est beau, hein.
Trailer Ubisoft, hein, je rappelle, Watch Dogs, tout ça.
Ouais. Voilà, une vidéo qui se termine devant le parvis de la cathédrale Notre-Dame, avec une guillotine qui s'abat sur quelqu'un. Et donc voilà, c'est enfin on a un petit peu d'infos sur Assassin's Creed 5. J'avoue que je m'attendais plus à avoir toutes ces infos dans un Game Informer comme d'habitude, ça n'a pas été le cas.
Bah, il faut dire que il y a eu un peu un gros leak de screenshots un peu dégueulasse, donc je pense qu'ils se sont sentis obligés de diffuser le trailer en fait, mais je voulais tout simplement te demander parce que quand même on rappelle que tu es un amateur de la série.
Ouais.
Moi, j'ai le sentiment, ces dernières années, qu'il y a quand même une lassitude qui s'installe.
Ouais.
En tout cas, sur le plan du gameplay. Même si Assassin's Creed 4 Black Flag a marché parce que pirate.
Ouais.
Alors, pour le coup, même si on apprécie la France, tout ça, je pense qu'il faudra autre chose pour changer la donne. Même si on rappelle que l'innovation intéressante du 4, c'était quand même les combats navals qui avaient été grandement améliorés, de ce que j'ai compris, par rapport au 3.
Oui.
Qu'est-ce que tu attends en termes de gameplay comme nouveauté? Est-ce que tu attends un gros changement?
Bah, en fait, c'est la grande question que je me pose en concernant Assassin's Creed Unity, c'est que si on a effectivement que Paris comme sandbox, ça va être compliqué d'avoir de véritables innovations de gameplay dans le sens où exit les combats navals. Bon, il y a eu quelques rumeurs qui disaient que le jeu alternerait entre Paris et l'Angleterre, ce qui est toujours possible, hein, ça n'a pas été confirmé, mais à ce moment-là, il pourrait y avoir des phases navales, mais ça a moins de sens dans un univers tel que celui-ci.
Mais justement, est-ce que ce sera pas l'occasion pour Ubisoft de renouveler complètement le gameplay de la partie à pied, quoi, tout simplement?
Ça serait cool. Cela dit, je vois pas du tout comment ils pourraient faire ça. J'ai l'impression, en fait, qu'ils se sont enfermés dans leur gameplay et qu'ils ne sont capables d'apporter que de légères modifications. Et moi, la véritable innovation que j'attends, ça serait qu'on ait un véritable retour à l'infiltration, en fait, dans Assassin's Creed. Mais je sais pertinemment que c'est pas possible.
Pourquoi?
Étant donné la direction qu'a pris la série depuis ces dernières années et les attentes du public, je suis pas sûr, en fait, qu'on puisse revenir à ça.
Mais tu es sûr que le public, il attend pas, justement, un jeu d'infiltration intéressant? Ou en tout cas, on ait le choix de l'infiltration
Ben moi j'aimerais bien que le public attende ça. En tout cas moi c'est ce que j'attends. Après, ce qui serait pas mal, ça serait qu'on puisse jouer les deux, comme c'est un petit peu l'objectif avec Watch Dogs en mai prochain. J'espère qu'ils vont mettre en place ces choses-là, parce que sinon en fait la seule chose qui pourra nous dire hey, Assassin's Creed Unity c'est cool, c'est son univers, c'est la période dans laquelle il se déroule. Alors certes c'est cool. J'attends ça avec impatience, redécouvrir le Paris du XVIIIe siècle pendant la Révolution française.
Surtout que c'est un Paris qu'on connaît assez peu. On connaît le Paris haussmannien, mais le Paris de la Révolution française, voilà quoi.
On n'a quasiment jamais joué là-dedans. Enfin, on n'a jamais joué là-dedans, d'ailleurs. Et donc moi, je suis assez curieux. Par contre, j'ai toujours de grandes inquiétudes par rapport à cette période-là. Enfin, de grandes inquiétudes de base, en fait, avec la série des Assassin's Creed, c'est qu'on fasse n'importe quoi, en fait, avec le background et l'histoire, et qu'on arrive finalement avec quelque chose de très, très bipolaire, en fait, qu'on ait un côté très gentil, un côté très méchant, et j'ai un petit peu peur que le côté de la monarchie, notamment, soit traité de façon trop superficielle, en fait.
Et même pas forcément le côté de la monarchie, je veux dire, déjà le conflit entre Robespierre et Danton.
Ouais.
Moi, ce qui m'intrigue aussi, mais par exemple, même au-delà de l'infiltration, je sais qu'ATH, par exemple, a un souci avec les combats d'Assassin's Creed. Est-ce qu'on pourrait avoir enfin un vrai système de combat, quoi? Par exemple, avec des ennemis, j'ai cru comprendre que ça s'est amélioré, qu'il t'attendait moins à la queue leu-leu, quoi.
Ouais.
C'était pas encore ça, quoi. Donc
dans Black Flag, c'est vrai que ça a pas mal changé. C'est-à-dire qu'ils t'attendent moins. Souvent, tu galères un petit peu plus si t'es pas vigilant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore du niveau d'un Batman Arkham machin, quoi. Donc ça serait bien qu'ils mettent en place quelque chose de cet ordre-là. Mais encore une fois, dans une série qui est tellement qui coulole et qui se veut tellement stylée que au bout d'un moment en fait c'est le choix entre la satisfaction immédiate du joueur et un challenge en fait. Et si tu veux, Assassin's Creed a toujours choisi la satisfaction facile. C'est pour ça que je suis en train de me lasser de la série, surtout avec Black Flag d'ailleurs. J'ai l'impression qu'en fait on est entré dans des poncifs et qu'on n'en sortira jamais parce que ils ont trouvé la formule et pour le moment ça marche, alors pourquoi changer? Donc j'ai l'impression qu'en fait, bon, il est encore trop tôt évidemment pour se prononcer sur Assassin's Creed Unity, mais c'est un sentiment que j'ai, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi Ubisoft se dirait tiens si on faisait une refonte totale de la série.
Niveau méta-histoire, t'attends quelque chose ou...
Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que j'ai pas terminé Assassin's Creed 4 Black Flag, donc je sais pas exactement où on en est, même si je sais que ça part un petit peu dans des considérations assez étranges. Pour le moment, méta-histoire, franchement, ça m'intéresse pas, pour le moment.
Est-ce que tu fais partie de ceux, parce que j'ai vu ça pas mal sur les forums de discussion, qui pensent que en fait la série devrait carrément lâcher toutes ces histoires de science-fiction avec les voyages en la mémoire génétique machin truc et uniquement en fait jouer le personnage dans le passé en fait. Parce que j'ai vu pas mal de personnes qui disaient alors ouais autant Assassin's Creed 4 Black Flag je kiffais jouer mon pirate. Autant le retour en présent, putain, mais ça cassait mon délire, mais d'une force, quoi. Ouais. C'était absolument figeant, quoi. Donc, est-ce que tu fais partie de cela?
Pas vraiment. Je n'ai fait que le début de l'histoire de Assassin's Creed 4 Black Flag dans le présent. Donc, je suis encore jamais revenu à cet endroit-là. Du coup, je sais pas exactement de quoi parlent les gens. En fait, je suis un perpétuel optimiste, c'est-à-dire que à chaque fois je me dis ils vont arriver avec des idées sympas, ils vont se sortir les doigts et ça va être sympa. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant avec cette méta-histoire, notamment des histoires crossover, c'est-à-dire que t'as un personnage dans le présent qui pourrait explorer plusieurs périodes historiques. Ça serait vraiment cool. Mais ils le feront pas forcément tout de suite, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec ce système-là, mais ils sont pas encore assez conscients de ces possibilités-là. Fondamentalement, j'ai pas envie qu'ils laissent tomber cette intrigue-là, même si j'ai l'impression que avec Assassin's Creed 3, ils sont arrivés à un point final qu'ils ont du mal à dépasser. Je pense que s'ils font un petit peu une réflexion sur voilà ce qu'ils pourraient faire avec cette méta-histoire plutôt que rester dans le gimmick, je pense qu'on peut avoir des trucs cool. Mais bon, encore une fois, il faut les travailler, quoi.
Parce que aussi, ce que reprochent les gens, c'est au-delà de la méta-histoire, c'est que le fait que le gameplay des phases en présent est totalement inintéressant. En fait, c'est limite c'est presque un menu en 3D. Donc, est-ce qu'il faudrait pas renouveler ça aussi, quoi, à un moment donné?
Bah, pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein. Dans Assassin's Creed 4 Black Flag, ils l'ont mis en vision FPS, des trucs dans ce genre-là. Sauf qu'en fait, fondamentalement, on ne fait rien dans ces phases-là. Du coup, moi, j'ai envie qu'on ait un personnage charismatique, j'ai pas envie de spoiler Assassin's Creed 3, qui ait une histoire, qu'on ait envie d'explorer, et ce personnage-là, qui ait des choses à faire lui aussi, dans son monde. C'est-à-dire que il faudrait que les deux histoires, l'intrigue à la fois dans le présent et l'intrigue dans le passé, dans les périodes historiques, se rejoignent à un moment donné. C'est-à-dire que ce personnage-là, dans le présent, ait besoin d'aller dans le passé pour faire quelque chose dans le présent. Ça manque d'action à faire dans le présent. C'est pour ça que les gens se foutent de la méta-histoire. C'est que, un, c'est chiant, et deux, on n'a rien à faire. Donc si on avait enfin une vraie histoire par jeu dans cette période de présent, je pense qu'on aurait envie d'y jouer.
Mais est-ce que pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'au bout d'un moment, on va épuiser la méta-histoire, parce qu'à force de sortir un épisode par an, je peux dire, à un moment donné, t'as peut-être fait le tour, non?
Mais là, concrètement, la méta-histoire, on l'épuise pas du tout. On l'étire, mais il y a juste rien dedans. Enfin, ce qu'on met dans Assassin's Creed 4 Black Flag, par exemple, il y a rien. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, ça n'avance pas. Donc, pour le moment, je conçois que ça soit inintéressant. C'est forcément parce qu'il n'y a pas d'intérêt dedans. Il n'y a pas d'intérêt à la jouer. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie qu'on ait un personnage nommé, un personnage qu'on voit, et pas qu'on te mette un mec en vision FPS, tout ça comme ça, parce que t'as pas besoin de le designer, t'as pas besoin de faire un travail de background dessus. Là, pour le moment, en fait, ce qu'on a fait avec Black Flag, c'est on attend, en fait, on temporise avant que les gens s'en lassent véritablement. Et je pense que ça serait l'erreur à ne pas faire dans Assassin's Creed Unity, c'est qu'il nous faut quelque chose dans la méta-histoire, parce que sinon, voilà, comme tu disais, autant s'en passer tout simplement, parce que c'est certes la marque de fabrique d'Assassin's Creed, mais si on n'en fait rien, à quoi bon l'avoir, quoi. Donc, moi, c'est ça que je prône. Il faut deux personnages par Assassin's Creed. Un qui a une histoire dans le présent, et un qu'on va suivre dans le passé.
Ouais. Moi, pour terminer là-dessus, en fait, pourquoi je parle de ce sujet aussi, c'est parce que, en tant que personne qui observe la série comme ça de loin, auquel je ne joue pas parce que il se trouve qu'Ubisoft sur PC a décidé de mettre Uplay, il n'est pas question que je joue avec cette merde sur mon PC. Plus je vois les épisodes avancer, plus je me, tu vois, l'histoire devient intimidante, en fait. Parce que tu dis, alors, ok, là, on est à l'épisode 5. J'ai pas du tout suivi l'histoire jusque-là. Est-ce que je vais pas être complètement largué, en fait?
Ouais.
Et je pense que plus la série va avancer, étant donné qu'Ubisoft a pas du tout l'air décidé de la lâcher, en fait, plus ils vont avoir ce problème-là qui va se poser à eux. Parce que il y a les nouveaux entrants qui vont arriver, qui vont dire, mais, ok, mais cette histoire-là, moi, je la connais pas, ça se passe comment, les histoires bien construites, etc., ça, c'est cool, quand t'as une série, tu vois, qui a une longueur définie et qui s'arrête, quoi. Sauf que Ubisoft, ils ont pas l'air, enfin, ils sont pas dans cette optique-là. Donc, ça risque d'être un problème, moi, je pense. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, ils vont dire, bon, ok, la méta-histoire, poubelle. Et on part maintenant, Assassin's Creed, de tous les épisodes, c'est, Templier versus, Assassin, puis voilà, point.
Mais c'est pour ça, en fait, qu'ils ont opté pour ce choix-là dans la méta-histoire de Black Flag. C'est un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son background et on le connaîtra sans doute pas. T'as pas besoin d'avoir tout le passif de la série. Tu repars, en fait, sur une page blanche avec Assassin's Creed 4 Black Flag. Et j'ai peur que ça soit la même chose pour tous les Assassin's Creed qui vont arriver. Parce que, comme tu le dis, ils ont véritablement ce problème-là de gens qui disent, mais merde, enfin, moi, je connais pas, j'ai pas joué aux 7 épisodes qui sont passés. Est-ce que c'est vraiment la peine que je me mette dedans? C'est pour ça que je me dis que la méta-histoire va finir par être un poids et va pas forcément être très intéressant ou très attirant pour les nouveaux entrants. Cela dit, la série se vend tellement que je me demande s'il y a vraiment de nouveaux entrants, en fait.
Bon, toujours Ubisoft, on va en parler vite fait, c'est le prochain Far Cry.
Ouais.
Donc, après le retour dans les îles, n'est-ce pas? Cette fois, on devrait aller faire un tour en montagne, si j'ai bien compris.
C'est ça. On va partir donc dans la chaîne himalayenne, dans Far Cry 4. C'est la première fois, hein, de mémoire, que Far Cry s'éloigne des îles. Enfin, non. Far Cry 2, c'était en Afrique, mais bon.
L'Himalaya, je veux dire, à part peut-être dans un Tomb Raider, je crois qu'on l'a eu une fois... c'est pas un setting qui est très exploité dans le jeu vidéo. Ça peut être intéressant.
Alors, on sait pas grand chose du jeu, mis à part qu'il va sortir probablement vers mars 2015, et qu'il sera probablement reporté comme d'habitude. Mais, et autre chose, alors bon, tu me diras ce que t'en penses ou pas, mais visiblement, on pourra monter des éléphants dans Far Cry 4.
Bah quoi? T'as quoi contre les éléphants?
Non, mais c'est, en fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'on a le nom du jeu, sa date de sortie, et ça. je trouve ça très étrange, en fait. Au fait, il y aura des éléphants.
je crois qu'il y a eu des rumeurs aussi comme quoi il y aurait un retour des monstres dans Far Cry. Parce que je rappelle que le premier, il y avait des bestioles, hein, quand même.
Ouais.
C'était, voilà. Donc il paraît que peut-être dans ce Far Cry-là, il y aura le retour des monstres. Parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas dans Far Cry 3, notamment.
Bah, c'est pas moi qui pourrais te répondre, mais oui, sans doute.
Voilà.
Donc pourquoi pas, mais comme d'habitude, je pense que c'est un jeu qui va être reporté.
Bah quoi? C'est un jeu Ubisoft, c'est normal?
Bah c'est ça. C'est-à-dire qu'on va le voir en bonne et due forme à l'E3, et puis après on le verra un petit peu moins en fin d'année, et puis en début d'année 2015 ils vont dire « Au fait, non, faudrait vraiment qu'on polish un peu le jeu, on va le sortir en fin d'année 2015
». Bref, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, en gros, encore un jeu annoncé trop tôt, n'est-ce pas?
Exactement.
Voilà, donc nous allons enchaîner sur Obsidian.
Mm-hmm.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il se trouve qu'on attendait une annonce d'Obsidian à la GDC.
Ouais.
Et étant donné qu'ils avaient dit que leur prochain Kickstarter, ça devrait se dérouler vers mars-avril, tu vois, en tout cas qu'on aurait des nouvelles, tout le monde se disait, bon, ok, c'est plié, hein, la GDC, Obsidian, nouveau Kickstarter, en plus ça parlait d'un RPG SF, là, tout le monde était content parce que ça change un peu de la fantasy, et puis, on a eu l'annonce. Et puis là, on a fait, nope, can't deal with it, nope. Ils ont annoncé un putain de clone de comment ça s'appelle ce jeu-là de Wargaming
World of Tanks.
Voilà, le jeu dont j'en ai tellement rien à faire que je me rappelle plus du titre. Donc voilà, les fans de Free-to-Play sont très heureux, hein, et les fans de RPG étaient un peu dégoûtés. Enfin, je veux dire, j'ai eu une énorme déception, moi, parce que j'attends d'un studio comme Obsidian qui a des talents d'écriture, certains, autre chose qu'un putain de MMO free-to-play, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai rien contre, hein, fondamentalement. C'est juste que, de la part d'un studio comme Obsidian, peut-être que j'ai des attentes trop élevées. C'est vrai qu'il faut bien manger, etc. Mais moi, j'attendais que leur talent soit mis à contribution. Peut-être pas forcément pour RPG, d'ailleurs, tu vois. Un FPS, par exemple, avec une super narration. Un truc de fou, tu vois, le truc qu'on ne fait plus aujourd'hui. Hein. Quoique, j'exagère. Far Cry 3, il paraît qu'il est pas mal à ce niveau-là. Mais là, non, c'est juste un NM, MMO free-to-play random. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi qui suis fan du studio, pour le coup, je te raconte pas la déception, quoi, c'était là, mais...
Putain, oui, mais je vois pas trop ce que t'as contre World of Tanks, en fait.
Ah, mais j'ai rien contre World of Tanks.
Non, je déconne.
Je dis que ça m'intéresse pas, quoi.
En fait, je trouve que c'est dommage. Alors certes, parce que bon, t'en as pas parlé, mais c'est effectivement une commande de la part d'un éditeur qui lui ont dit qui ont dit à Obsidian, voilà, on aimerait bien que vous développiez ce jeu avec tel cahier des charges. Bon, c'est vrai, t'as raison, il faut bien qu'on mange. Après, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas forcément, enfin, je me demande si c'est vraiment un bon plan qu'Obsidian se lance dans un tel projet, dans le sens où c'est pas ce genre de choses qu'on attend de ce studio-là. Alors, je prône pas forcément le fait qu'un studio doive toujours faire la même chose, hein, on est d'accord.
Attention, encore une fois, je n'ai pas dit qu'ils devaient faire un RPG. J'ai dit qu'ils ont des talents d'écriture et que pour moi, c'est un gaspillage de talents, en fait.
Voilà. Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, enfin, je trouve qu'ils vont perdre du temps là-dessus. Enfin, ils vont perdre du temps, de l'énergie, sur un jeu qui va probablement marcher, hein, on est d'accord. Enfin, il y a un marché pour ce genre de jeu-là, maintenant.
La preuve, le succès doit avoir, hein, je veux dire.
Voilà. Après, est-ce qu'il y a la place pour plusieurs jeux de ce type-là? J'en sais rien.
Enfin, parce que bon, en plus, Wargaming, je veux dire, ils ont sorti World of Warplanes, enfin, ils ont fait toute la gamme, tu vois.
World of Battleships, je crois aussi.
Enfin, bref.
Et il y a sans doute des clones aussi maintenant, bref. Je trouve ça dommage pour un studio comme Obsidian, duquel on pourrait attendre plus que ça, en fait. Et bon, peut-être qu'ils ont été contraints et forcés d'accepter cette commande-là, hein, on n'en sait rien, on ne connaît pas l'état de leurs finances. Mais...
Il faut quand même bien voir que South Park c'est terminé, là il faut bien mettre les gens sur un autre projet.
Ouais.
Et qu'ils n'ont peut-être pas l'argent pour financer un autre projet d'eux-mêmes, quoi, en fait. Après, je dirais qu'il y a Kickstarter, mais Obsidian, en fait, c'est un studio d'une centaine de personnes. Il faut bien voir ça.
Ouais, c'est beaucoup.
Donc, il faut bien mettre les gens sur certains projets, quoi.
Oui, parce que c'est Project Eternity, hein, leur
Kickstarter. Ouais. Voilà, le Kickstarter qui a marché, oui, c'est Project Eternity.
Ok, donc j'imagine que la phase du développement de Project Eternity doit, en fait, ignorer une certaine partie des 100 personnes qui travaillent chez Obsidian, et ces personnes-là, en fait, ont besoin de travailler sur autre chose.
Ah oui, bah surtout que Project Eternity, je veux dire, c'est pas... Bon, ouais. C'est un jeu à l'ancienne, quoi, si tu veux. C'est pas un jeu qui nécessite tant de monde que ça non plus, quoi.
Donc, bon, certes, ça fait travailler les gens, voilà, c'est juste dommage qu'ils perdent sans doute 2 ans de leur temps à développer ça, quoi. Voilà, on est un petit peu déçus, mais bon.
Et puis surtout, ils ont fait un epic fail sur la communication, quoi, je veux dire.
Ouais, c'est clair.
Comme ils avaient dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose, machin, ben, les gens ont attendu. Et malheureusement, les fans du studio ne sont pas forcément... Alors, attention, je ne dis pas qu'on peut être fan de World of Tanks et aimer les RPG bien écrits par ailleurs. Mais je dis qu'a priori, quand tu as des attentes en termes d'écriture, comme tu peux en avoir, quand t'es fan de ce studio-là, t'es peut-être pas forcément le public cible pour un MMO de tank, quoi, on va dire. C'est peut-être pas la même chose, quoi. Donc forcément, il y a déception. Voilà, c'est tout. Bon, je te propose qu'on passe à la suite.
Bien sûr.
Project Morpheus. C'est quoi Project Morpheus?
Alors, c'est l'officialisation enfin du casque de réalité virtuelle de Sony, qui a été en rumeur pendant des mois et des mois, qui a été révélé à la Games Developer Conference. On l'a vu enfin le visuel du prototype. Et les développeurs et certains journalistes américains ont pu s'essayer à ce casque et donc le comparer à l'Oculus Rift qui, lui, a fait sa première sortie avec son dev kit numéro 2 qui a été changé en termes de technique et aussi en termes de confort. Bon, en dehors du fait que voilà le Project Morpheus est très joli, on n'a pas grand-chose à en dire malheureusement, mis à part le fait que les journalistes qui étaient présents, enfin j'ai écouté les impressions d'IGN qui disait que le Project Morpheus était beaucoup plus confortable que le dev kit de l'Oculus Rift. J'ai l'impression que les gens sont très très curieux, mais n'ont pas forcément envie de s'emballer, parce que voilà, c'est le problème de ce genre d'événement, c'est que les sessions sont très courtes, les prototypes ne te donnent la possibilité de voir que certaines choses, tu peux pas vraiment tester tout en conditions réelles, malheureusement. Donc voilà, les gens sont convaincu, on va dire, par l'expérience de 15 minutes qui leur est proposée, mais ont toujours des interrogations, ce qui paraît normal. On n'a par contre aucune nouvelle d'un planning de sortie, évidemment, à savoir que Project Morpheus est conçu pour fonctionner avec le PlayStation Eye, qui va en fait détecter la position du joueur dans l'espace, mais aussi pour marcher avec le PlayStation Move. Évidemment une manette de PS4, on est d'accord. Mais
ils ont ressorti le PlayStation Move du placard, c'est ça pour
oui, oui. Ils l'ont ressorti. Pourquoi pas, je sais pas exactement ce qu'on peut en faire pour le moment. Sony, par l'intermédiaire de Shuhei Yoshida, a annoncé un partenariat avec la NASA pour avoir une espèce de simulation de marche sur Mars avec Project Morpheus. C'est-à-dire qu'ils essaient de vendre à la fois le divertissement et les jeux, mais aussi des expériences différentes. Pourquoi pas, après tout, hein, mais c'est... Voilà, il faut qu'on puisse voir très rapidement en quoi la PS4 a intérêt à lancer un projet comme Morpheus et ce qu'on peut en tirer en termes ludiques. Donc voilà, faut voir comment ça marche. À savoir que la résolution de Project Morpheus a été exactement la même que celle de l'Oculus Rift. C'est du 960, je crois, par 1080 sur chaque œil, ce qui fait du 1920 par 1080, donc du 1080p de résolution pour chaque œil. Visiblement, les gens sont assez convaincus par le visuel de Project Morpheus, et certains sur l'Oculus Rift qui disent que ça n'a pas beaucoup évolué entre le Dev Kit 1 et 2.
Je précise aussi également que Eve Valkyrie, dont on avait parlé, sera compatible avec Project Morpheus.
Oui.
Et je précise également qu'en fait, chez Oculus, ils sont très contents de l'annonce de Sony. Pourquoi? Parce que l'Oculus Rift, c'est pour le PC uniquement.
Ouais.
Alors que Sony, on se doute qu'a priori ce sera uniquement pour les devices Sony, mais...
Bien sûr, ouais, c'est pas logique.
Pourquoi ils sont contents? Tout simplement parce que ça augmente le parc pour les potentiels projets en réalité virtuelle, en fait, tout simplement. Limite, ça les arrangerait, tu vois, que Microsoft annonce aussi cette techno. Quoique Microsoft, ça pourrait être embêtant, parce qu'il y a des chances que ça sortirait sur Windows aussi, pour le coup. En tout cas, Sony, ils sont très contents, parce que il se trouve que, par exemple, quand tu vois des éditeurs comme Ubisoft qui disent que pour que ce soit viable économiquement, il faudrait qu'il y en ait au moins 1 million de ventes, forcément, ça serait pas de refus, tu vois, qu'il y ait possibilité de porter les jeux en plus sur PlayStation 4 pour avoir des jeux en réalité virtuelle.
Bien sûr.
Donc voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence à proprement parler entre les deux projets, juste une saine émulation, et moi je trouve ça très bien. Est-ce que ça se vendra suffisamment pour que ça soit intéressant? Est-ce qu'on n'aura pas genre 3 jeux qui utiliseront le truc et puis basta, quoi?
Ouais.
PlayStation Move Inside. Voilà, c'est toujours les mêmes interrogations et ça me fait un peu peur. Voilà.
Ouais, bah comme d'habitude.
Bon, on passe à la suite. Et nous allons maintenant parler de la baisse de prix des moteurs. Et ça, c'est une nouvelle très importante. J'ai pas les prix en tête exactement, mais si vous voulez, notamment le Cray Engine, c'était plusieurs millions d'euros hein, pour avoir le moteur. Epic avait un modèle un peu différent, c'est-à-dire que bon, il y avait la version tu payes des fortunes incroyables pour avoir le moteur, mais il y avait aussi la version gratuite où ils prélevaient une part significative de tes revenus pour se financer. Alors, ils ont ouvert le bal cette semaine à la GDC. Ils ont annoncé un peu un entre-deux, si tu veux, c'est-à-dire que à partir de maintenant, en payant $19 par mois, tu auras accès au moteur, au support. Ils ne prélèveront que 5% de tes revenus sur tes ventes. Mmh. Et puis voilà. Donc, ça veut dire que pour $19 par mois, tu as un super moteur à ta disposition. Pour, en plus, bon, des royalties qui finalement sont assez modestes. Hein. Je veux dire, 5%, bon, c'est pas la mort non plus, surtout si tu distribues tes jeux en démat comme tous les indés.
Enfin, voilà. ça dépend vraiment du jeu. Hein, parce que quand on parle de 5% d'un jeu qui se vend à 1 million, je suis pas sûr qu'Ubisoft soit très très d'accord.
mais on est d'accord. C'est pas pour Ubisoft, ça. Non, c'est pour les indépendants.
On est d'accord.
Enfin, voilà. Ubisoft, ils en ont rien à foutre, hein. Ils développent leur propre moteur, etc.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le développent, hein.
Mais après, il y a eu une autre annonce. Alors là, pour le coup, qui a enfoncé le clou, mais genre, voilà, quoi. le CryEngine, Crytek. Donc, Electronic Arts, hein. Qui a annoncé que pour donc $10 par mois, tu pouvais accéder à leur moteur et qu'il n'y aurait pas de royalties.
Bim.
Voilà. Ok. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte l'espèce de changement de paradigme total auquel on vient d'assister là. Les indépendants ont maintenant accès pour un abonnement, somme toute assez modeste, à 2 putains de super moteurs. Ce qui veut dire que potentiellement, je dis pas forcément qu'ils vont aller sur ces moteurs, hein, parce que il faut voir que par ailleurs quand même ce sont des moteurs qui sont pas forcément simples à appréhender, hein, surtout pour des petites équipes. Mais quand même, ça veut dire que les indépendants ont accès maintenant pour une somme modeste à des putains de super techno. Alors forcément, du coup, ça fait un peu mal à Unity, hein, parce que Unity, donc je rappelle qu'il y a un moteur très populaire chez les indés. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, ils proposaient le modèle le plus intéressant.
Ouais.
À savoir que soit tu payais $75 par mois, soit tu payais une licence de $1,500 pour avoir le moteur entier. La licence de $1,500, à mon avis, elle reste assez intéressante tout de même.
Oui.
Mais les $75 par mois, pour le coup, là, ça va être difficile à justifier, quoi, on va dire. Même si Unity a par ailleurs des avantages que n'ont pas les autres moteurs, notamment le fait que, comme dit un pote à moi, Unity, pour porter ton jeu sur Mac, Linux, machin bidule, c'est un clic, en gros. Hein. Bon, ouais. C'est exagéré, mais en gros trait, c'est ça, quoi. Donc, c'est un moteur qui est très pratique quand tu veux faire du multi-support, ce qui est intéressant pour les indés. Et surtout que les indés qui n'ont pas forcément, tu vois, de besoin de machines de guerre non plus pour faire leur jeu, quoi, tout simplement. Je veux dire, le CryEngine, c'est bien quand tu veux faire de la Super 3D, hein.
Bien sûr.
Quoique le Unreal Engine 4, ils ont annoncé aussi qu'ils allaient faire de la 2D maintenant. Donc, bon, on verra. Mais voilà. Je trouve que cette émulation, qu'il y a au niveau des moteurs, bah, c'est une émulation saine, qui fait qu'on va avoir des projets indés qui, de plus en plus, vont avoir, en tout cas sur un plan technique, quelque chose d'assez solide, pour peu, bien évidemment, que les indés ne fassent pas de la merde avec. Hein. C'est comme tout, hein. Il faut appréhender ces outils. Sachant que aussi, pourquoi je pense que Unity a toutes ses chances, c'est parce que c'est un moteur qui, déjà, a une communauté très forte, et qui est assez simple à appréhender, en fait, tout simplement.
En fait, j'apprécie cette initiative dans le sens où forcément la concurrence garde en fait les prix au plus bas, et ce qui c'est très bien pour les indés dans le sens où ça leur donne forcément plus d'outils pour travailler, et du coup quand on a plus d'outils on peut faire forcément des choses qui sont meilleures quand on connaît ces outils. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut pas avoir des équipes qui sont plus grandes pour des projets qui utilisent le Unreal Engine 4 ou le CryEngine. Ça, je sais pas exactement.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un temps d'adaptation qui est beaucoup plus long.
Voilà, on est d'accord.
Par rapport à Unity, ou si tu veux, voilà, la prise en main, bon.
Ouais.
Par exemple, si t'es pas graphiste, sur Unity, ils ont un truc qui est très fort, c'est qu'ils ont une boutique d'assets, en fait, où les gens peuvent revendre leurs assets, etc., où Unity prend ça comme au passage, qui est très dynamique aussi. Enfin bref, c'est Unity, c'est très pratique quand tu veux mettre en place un projet rapidement et un projet modeste.
Voilà. Et donc du coup, ça va nous permettre d'avoir une variété sur les jeux indépendants qui sera accrue évidemment, puisqu'on fait pas exactement les mêmes choses avec tel ou tel moteur. Et du coup, c'est que du bon pour les joueurs. Donc ça me fait plaisir et ça permettra peut-être de libérer certaines initiatives qui n'auraient pas été possibles avec des moteurs maison ou des moteurs simplement liés à Unity. Je sais pas. Ça va donner en tout cas des armes supplémentaires aux développeurs et c'est pas plus mal.
Nous allons maintenant parler de THQ.
Ouais.
Parce que il se trouve que lorsque la base de THQ est sortie du bois, il a parlé de Patrice Désilets. Alors pour le coup, moi j'avoue, je n'ai pas du tout suivi cette actualité.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a bien pu dire sur Patrice Désilets pour que tu aies envie de nous en parler cette semaine, Mordrain?
Donc c'est Danny Bilson qui était chez THQ à l'époque où THQ était encore vivant, qui était donc dans la division jeu de THQ, et en fait il a évoqué tous ces jeux qui ont été donc vendus ou qui ont été abandonnés suite à la vente de l'éditeur. C'était l'année dernière, je crois.
C'est plus même peut-être, j'ai un doute, mais enfin peu importe,
bref, au début de l'année dernière je pense. Et il nous dit en fait que le projet 1666 donc de Patrice Désilets, qui a été donc racheté par Ubisoft avant d'être mis au placard, hein, disons ça, disons les choses clairement.
Bah, on se demande même si Ubisoft l'a pas racheté très clairement pour mettre au placard, en fait, parce que on rappelle donc que Patrice Désilets, c'est papa d'Assassin's Creed.
Exactement.
Et que bon, a priori, il y avait peut-être un potentiel pour que le projet de Patrice Désilets soit un petit concurrent d'Assassin's Creed, en fait.
Voilà.
Donc voilà.
Donc, il a racheté le studio qui faisait 1666, tout ça pour virer les gens qui étaient dedans. Patrice Désilets qui a fini par quitter Ubisoft, parce que à la base, il avait quitté Ubisoft après Assassin's Creed. Révélation. Pas en très bons termes du tout. Pour aller chez THQ, monter son projet 1666 où il était très très heureux. Tout ça pour revenir dans le giron d'Ubisoft parce que son studio à Montréal, je crois, a été racheté. Et tout ça pour repartir de chez Ubisoft. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça que Danny Bilson en fait nous donne comme information, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que lui, il avance le fait, bon évidemment il se pose en chevalier blanc, THQ faisait les bonnes choses, suivez notre exemple. Il dit en gros que selon les standards de THQ, une personne qui a créé une franchise comme Assassin's Creed doit avoir une part de contrôle sur sa destinée. C'est-à-dire que on lui donne en fait les clés de sa franchise. Ce qui n'est évidemment pas le cas chez Ubisoft. Et c'est pour ça qu'il l'avait quitté d'ailleurs. Et en fait, il dit que quand Ubisoft s'est rendu compte du contrat que Désilets avait chez THQ, ils ont tout fait pour que Désilets se casse en fait. Voilà, il disait que Ubisoft n'était pas forcément très à l'aise avec un contrat tel que celui-ci. C'est un contrat qui veut que le créateur de la franchise, donc de la licence, et son studio soient propriétaires de la licence. C'est exactement ce qui se passe.
Oh mon Dieu, c'est une hérésie chez Ubisoft, putain.
Voilà, et c'est exactement ce qui se passe avec Titanfall et Respawn, qui sont propriétaires de leur bébé. Patrice Désilets était propriétaire de 1666.
C'est pour ça qu'il a attaqué Ubisoft en justice, en fait, parce que au départ, je disais que c'est bien attaqué, mais est-ce qu'il a les bases légales pour ça? Alors pour le coup, il a peut-être vraiment les bases légales pour ça, en fait.
Donc disons que THQ disait que voilà, c'est normal pour nous que Patrice Désilets ait ce contrôle sur sa licence parce qu'il l'a mérité avec Assassin's Creed. Ubisoft, en arrivant là-dedans, s'est dit « Ah ouais, mais non
!»
Bon, y a d'autres choses sur d'autres jeux qui nous intéressent un petit peu moins parce qu'ils sont terminés, en fait. Notamment Warhammer 40 000 Dark Millennium, le MMORPG. Mais bon, c'est assez intéressant. L'interview est très longue et elle est publiée chez VG247. Donc, je vous invite à aller la voir, aller la lire, si vous êtes intéressé par les coulisses de ce qui s'est passé chez THQ l'année dernière. Donc voilà, c'est. Je voulais juste faire un petit peu ce point-là.
Ouais, un petit éclairage sur le management à la Ubisoft, c'est magnifique.
C'est assez intéressant.
Attends, mon Dieu, un créateur qui a le contrôle sur sa franchise. T'imagines? Ouais. Mais scandaleux, inacceptable. Ah non, mais on comprend beaucoup plus du coup. Là tu vois, ça apporte vraiment un éclairage nouveau.
Ouais.
Moi je pensais qu'ils avaient juste acheté pour tuer la licence en fait, mais c'est plus que ça. Bon, enfin, on va terminer sur Metal Gear Solid Ground Zeroes.
Ouais.
Alors, Metal Gear Solid Ground Zeroes, donc c'est très clairement la démo, hein, je pense qu'on peut pas qualifier ça autrement, du prochain jeu de Konami, donc The Phantom Pain.
Mm-hmm.
Et c'est une démo, alors, qui, selon la manière dont vous la jouez, si j'ai pas compris, c'est terminé soit en 2 heures, soit en 10 minutes.
D'accord, très bien.
Ouais, 10 minutes, en fait, c'est un journaliste qui, dès le lendemain de la sortie du jeu, la speedrun, je crois, je sais plus quel site...
En gros,
quand tu sais où sont les gardes, etc., tu finis le jeu en 10 minutes. Faut dire que c'est assez facile. En plus, maintenant, comme t'as un super système où, oui. Dès que quelqu'un te repère, tu l'autoloques et tu peux le tuer, bon. Mmh. c'est génial. GG les mecs. Par contre, on va pas forcément s'attarder spécifiquement sur le cas de Ground Zero.
Non, parce qu'on n'y a pas joué.
Oui, bon, sachant que moi, en fait, j'ai vu le film, hein, mais quoique pour le coup, j'exagère de qualifier cette film parce que il y a quasiment pas de cinématique en fait. Hein.
D'accord.
Donc ce Ground Zeroes. Pourquoi on parle de ce sujet? Parce que moi il y a quand même quelque chose qui me dérange. Est-ce que vraiment la durée de vie c'est un argument qui peut forcément se retrouver dans les points négatifs quand le jeu est court?
Ouais.
Qu'on s'entende bien. Autant Ground Zeroes, je pense qu'effectivement il y a un problème avec la durée de vie. Mais pas tant parce que le jeu est court en lui-même. Mais parce que quand tu le termines, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai en regardant les impressions de tous les fans de la licence, ce genre de choses, en tout cas ceux qui ont été déçus, c'est le fait qu'il y a une frustration.
Ouais.
C'est le fait que t'as vraiment l'impression de ne pas avoir joué à un jeu qui se suffit à lui-même, mais d'avoir joué à une démo. C'est vraiment là, moi, que, sur ce point-là que je voulais insister, c'est que il y a une différence entre faire un jeu comme Brothers The Tale of Two Sons, journée qui se finissent en moins de 5 heures, et une démo qui se finit en moins de 5 heures aussi, mais où, quand tu la termines, il y a un souci, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, on en parlait un petit peu, enfin, on évoquait un petit peu le sujet la semaine dernière. C'est-à-dire que, à partir du moment où on est heureux de l'expérience qu'on a vécue, qu'on a joué, si elle dure 2 heures ou si elle en dure 12, quel est l'intérêt? Enfin, je veux dire, c'est peu importe, c'est que ça soit court ou long. Après, je pense qu'il y a effectivement un facteur placement prix qui doit jouer là-dedans. On est d'accord que une démo qu'on te fait payer 30 €. Ça a du mal à passer.
Moi, personnellement, une démo, on devrait même pas la faire payer tout court.
Voilà. C'est-à-dire que, bon, je sais pas ce qui s'est passé avec Ground Zeroes, mais effectivement, voilà, on la vend 30 €. Et je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que si tu payes un jeu 70 € qui ne t'offre qu'une campagne solo qui dure 5 heures, tu te dis ça fait cher de l'heure, quand même. Alors, après, il peut y avoir le facteur satisfaction de ces 5 heures. C'est tout à fait possible, hein, d'avoir une expérience de 5 heures qui est tellement dense et intense que tu en es heureux, c'est quand même assez rare. Donc voilà, je pense qu'il y a différentes choses, en fait, dans la durée de vie. C'est quel prix tu souhaites payer pour la longueur de l'expérience et la satisfaction qui découle de l'expérience. Donc il y a deux angles, à mon avis, sur la durée de vie.
Pourquoi j'ai l'impression que ces dernières semaines, il y a un peu de camp, si tu veux, qui en fait se trompe de débat, à mon avis, parce que fondamentalement, moi, l'impression que j'ai, c'est aussi que ceux qui ont été satisfaits, si tu veux, de leur expérience sur Ground Zeroes sont finalement ceux qui te disent que, oui, mais la durée de vie, c'est pas important. Ouais, et ça, c'est facile de dire ça quand tu as été satisfait par ton expérience.
Bien sûr.
T'as pas le sentiment, si tu veux, d'avoir été floué, mais justement, les joueurs qui se plaignent de la durée de vie sont ceux qui ont l'impression de ne pas avoir joué à un jeu complet, en fait. Et c'est bien ça le problème. C'est pas que le jeu ait fait 2 heures. Et d'ailleurs, pour inverser, si tu veux, le point de vue, j'ai un sérieux problème avec les gens qui s'axent uniquement sur la durée de vie, c'est que on peut faire un jeu long qui soit super chiant et qui justement est beaucoup trop long.
C'est clair.
Et ça, justement, j'ai l'impression que des fois, les gens oublient de le dire quand ils critiquent un jeu. C'est que un jeu peut aussi avoir le défaut d'être beaucoup trop long. C'est ce dont on discutait avec Dwayne, en fait. Que soulignait Dwayne dans son test de South Park, c'est que si le jeu avait été long, l'expérience aurait été gâchée, en fait.
Ouais.
Parce qu'il avait clairement été conçu pour sa durée de vie là, et que concrètement, plus long, ça aurait été du remplissage. Et je suis désolé, le remplissage, c'est pas non plus un modèle qu'il faut suivre, quoi, à mon sens.
Ouais, non, c'est clair. Il y a différentes façons de faire un jeu long. Il y a un jeu, en fait, qui est somme toute assez court, mais qu'on remplit avec plein de d'objectifs annexes qui sont très très chiants à faire, ou un système de grinding un petit peu à la MMORPG, c'est-à-dire qu'on doit faire tout le temps la même chose pour avoir accès au niveau supérieur et donc débloquer quelque chose, et ça, à la longue, c'est très très chiant.
Ou même, tout simplement, la mécanique classique... aller-retour, dès qu'il faut faire un truc, ça prend 3 plombes, t'augmentes la durée de vie avec ça, il y a aucun souci. Voilà, donc pour conclure là-dessus, en fait, pourquoi je voulais parler de ce sujet cette semaine, c'est que j'ai l'impression, vraiment le sentiment que les gens se trompent de débat. Ça sert à rien d'arguer sur le fait que oui, est-ce que le jeu est trop court ou pas, c'est pas la question du tout. La durée de vie, finalement, ce n'est qu'un facteur en plus, quoi, si tu veux. En gros, ils ont pas mis une expérience qui correspondait à cette durée de vie-là.
Voilà.
Et c'est sur ça, ce point-là qu'il devrait y avoir un débat, en fait. Parce que, oui, effectivement, je suis désolé, il peut y avoir des jeux qui sont beaucoup trop courts par rapport à ce qu'ils devraient avoir à proposer, parce que, justement, on n'a pas cette sensation de satiété que je peux avoir, par exemple, quand je fais une journée qui se termine en 3 heures.
Mais il y a aussi le fait que, pour rester dans le thème de la satiété, c'est... t'as le sentiment parfois que le jeu est tellement bien que t'en voudrais plus. Parce qu'il y a le problème inverse, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont trop longs et donc trop chiants, mais il y a des jeux qui sont trop bien et donc trop courts. donc c'est voilà, c'est bon, évidemment c'est un savant dosage, parfois c'est bon.
Sauf que là, c'est à la marge, quoi, en fait, c'est le jeu est trop cool, mais plus tard on aurait tellement aimé que ça sera plus long, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est pas du tout la même chose, mais bon, faut pas oublier que la durée de vie, c'est un paramètre. C'est-à-dire que quand un jeu vous plaît, finalement, l'important, c'est de vivre l'expérience jusqu'au bout, en fait. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont pas le temps aussi de faire les jeux en entier. Et donc, voilà, les durées de vie courtes sont de plus en plus appréciées par ceux qui n'ont pas forcément le temps, notamment moi, je parle d'expérience. Donc voilà, c'est, il y a vraiment des types de jeux qui ont... des durées de vie qu'on attend, c'est-à-dire genre un RPG, c'est pour ça qu'on en parlait la semaine dernière d'ailleurs, souvent on a tendance à attendre un RPG qui soit très très long. À l'inverse, un jeu de plateforme, on n'a pas forcément l'habitude d'en voir des très 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 longs.
Mais pourquoi on attend un RPG qui soit long? C'est parce que ces mécaniques de jeu qui reposent sur le leveling, la progression du personnage, impliquent un temps de jeu qui se déroule vraiment sur un temps long.
Ouais.
À moins que tu repenses les mécaniques de RPG, par exemple, pour les axer, je sais pas moi, sur le dialogue, la compétence, ce genre de choses, tu vois. Mais le fait d'axer le jeu sur la progression du personnage, pour que tu aies vraiment cette sensation de monter en puissance dans toute l'aventure, faut que ça s'étale, quoi. T'es obligé de t'étaler à un moment donné.
Bien sûr.
Alors, certes, je sais que certaines personnes n'aiment pas cette mécanique, mais peu importe, c'est une mécanique qui marche, qui a fait ses preuves. Et cette mécanique-là, quoi qu'il arrive, implique que le jeu soit long, alors que justement, un jeu de plateforme, ben voilà, c'est très immédiat comme genre, si tu veux.
Ouais.
Alors, après, tu peux faire un jeu de plateforme long, mais c'est beaucoup plus difficile. Et pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Parce que pour faire un jeu de plateforme long où le level design se renouvelle en permanence, parce que t'es obligé de faire ça fondamentalement pour que le joueur n'ait pas l'impression que le jeu se répète sans cesse.
Ouais.
Bah ça c'est compliqué et donc c'est pour ça que les jeux de plateforme sont plus courts qu'un RPG qui repose sur des mécaniques où pour le coup faire un jeu long c'est beaucoup plus simple.
Donc voilà, c'est vraiment variant en fait la durée de vie. Je suis pas sûr que ça soit vraiment le critère d'achat dont on ait besoin en fait en ce moment. C'est vrai qu'à l'époque je faisais un petit peu plus attention à la durée de vie des jeux, mais maintenant en fait je m'en fiche un petit peu.
Mais est-ce que tu achèteras Grand Zeroes?
Non, bah non, parce qu'en fait, bon déjà, ça, on m'a toujours dit que le jeu était très court et que c'était une, comment dire. Bon, il le disait pas comme ça, mais il disait, voilà, grosso modo, que ça allait être une démo de ce qu'on aurait dans Phantom Pain. Bon, et je vous cache pas que, voilà, la saga Metal Gear Solid, il va falloir que je commence le premier avant de me lancer dans Phantom Pain. Voilà.
Donc, je te rassure, même ceux qui ont joué comprennent pas forcément le scénario. Quoique là, en fait, je t'ai fait peur, je pense. Mais...
Donc voilà, pour le moment, je préfère rester sur des séries que je connais et sur lesquelles je suis à jour, notamment Assassin's Creed, plutôt que de me lancer dans Ground Zeroes, qui dure une demi-heure pour 30 minutes. Voilà. Ça fait cher la démo, quoi. Donc bon. C'est vrai que il y a des choix de durée de vie qui sont un peu plus scandaleux que d'autres, quoi.
Vous l'aurez compris, en fait, la durée de vie est laissée à l'appréciation de chacun et de l'expérience qu'il retire des jeux.
Le fameux ça dépend qui ouais. Contenu le débat.
Bon, après, on a le droit de pas être d'accord et de l'exprimer virilement, ouais, n'est-ce pas?
Bien sûr, bien sûr.
Sur les forums, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine, mon cher Morgan.
Oui.
Ce fut un podcast très intéressant en ta compagnie. Alors, il se trouve qu'ATH devait être avec nous aujourd'hui, mais je suppose qu'il a une panne de réveil, n'est-ce pas?
C'est possible, ouais.
Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.